Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une analyse approfondie qui part d'un document d'une concision assez trompeuse, en fait.
Ouais, tout à fait.
Le texte s'intitule « Le garde-fou du sanctuaire ». Et en quelques paragraphes seulement, ça déploie une architecture mentale et spirituelle d'une densité vraiment remarquable. Le but de l'auteur, c'est d'expliquer comment maintenir une paix intérieure totale face aux pressions extérieures.
C'est ça. Et ce qui capte tout de suite l'attention, enfin je trouve, ce sont les métaphores qu'il emploie. L'auteur ne se contente pas du tout de grandes théories abstraites, il emprunte à la physique des profondeurs sous-marines et il navigue carrément jusqu'au concept de souveraineté légale.
C'est fou ça.
Oui. Donc la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment de décoder ce cadre de pensée, de comprendre cette mécanique et de voir comment ce texte se présente comme un véritable manuel de résistance contre la surcharge émotionnelle.
Exactement. Et je suis vraiment ravi de plonger là-dedans avec toi aujourd'hui. C'est une excellente façon de le formuler.
Ben merci. C'est vrai que ce texte s'articule autour de concepts spirituels et religieux très marqués. Il mentionne explicitement le Saint-Esprit, la notion de santé ou encore la figure de Satan comme adversaire.
Ouais, c'est très clair dans le texte.
Mais ce qui rend l'analyse de ce document si pertinente pour quiconque étudie la psychologie, c'est que l'auteur traite ces concepts non pas comme de simples dogmes mystiques, mais vraiment à travers le prisme d'une ingénierie psychologique. Il propose un système logique avec des règles de cause à effet très strictes. Dans cette architecture de pensée, la paix n'est pas un concept éthéré, c'est une équation.
Une équation, ouais.
Voilà. Pour toute personne qui étudie la manière dont l'esprit humain peut structurer ses défenses face à un environnement hostile, c'est un modèle conceptuel qui mérite d'être disséqué avec la plus grande attention. Et ce, indépendamment des croyances de chacun, bien sûr.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Le texte s'ouvre sur une image inaugurale qui pose immédiatement les règles de cette physique mentale. C'est l'analogie du plongeur et de la pression interne.
Ah oui, cette image est géniale.
Ouais, elle est frappante. Le document nous invite à imaginer un plongeur sous-marin qui évolue dans les abysses. Et la mécanique décrite est hyper contre-intuitive en fait. Ce qui empêche ce plongeur d'être écrasé par les millions de litres d'eau juste au-dessus de sa tête, bah ce n'est absolument pas sa force physique. Il ne repouche pas l'océan avec ses muscles.
Ou avec un bouclier, quoi.
Non, c'est sûr. La seule chose qui maintient l'intégrité de son espace vital, c'est la pression interne de sa propre bouteille d'oxygène.
C'est une prémisse fascinante, mais d'un point de vue purement cognitif, ça soulève une vraie question.
Laquelle ?
Bah, l'instinct humain face à une contrainte, c'est justement de lutter, de pousser dans le sens inverse. Comment l'auteur justifie cette apparente passivité ?
Ce qui est fascinant ici, c'est précisément ce renversement du paradigme de la résistance. Dans la vie courante, on conceptualise presque toujours la résistance comme un affrontement cinétique.
Un choc, quoi. C'est ça. Face à une difficulté, l'esprit humain se met en tension. On s'imagine qu'il faut se forger une armure, s'endurcir ou combattre activement les éléments perturbateurs.
Ouais, on sort les armes.
Exactement. Sauf que le texte invalide totalement cette approche en s'appuyant sur les lois de la physique des fluides. L'océan représente la pression du monde, les circonstances, les adversités. Or, lutter physiquement contre la pression de l'océan, c'est une absurdité mathématique en fait.
Bah oui, on s'épuise pour rien, l'océan gagne toujours.
Voilà, l'océan a une force infinie par rapport à l'individu. L'auteur postule donc que la survie ne dépend pas de notre capacité à modifier l'environnement extérieur ou à le repousser. Elle dépend exclusivement du maintien d'un différentiel de pression.
C'est puissant ça.
Oui. Le danger ne réside pas dans la puissance de l'océan, qui est une donnée fixe et inévitable, mais dans une potentielle chute de la pression à l'intérieur du scaphandre.
C'est un changement de perspective assez radical. Si on suit cette logique, ça voudrait dire qu'une grande partie de l'épuisement mental contemporain vient du fait qu'on passe un temps infini à essayer de vider l'océan avec une petite cuillère.
C'est une très belle image.
On va donner des coups de poing dans les courants marins, alors qu'on devrait juste vérifier le cadran de notre propre bouteille d'oxygène, en fait.
C'est exactement le propos de l'auteur.
Et d'ailleurs, le texte donne une nomenclature précise à cette pression interne. Il l'appelle l'atmosphère. Dans le référentiel de l'auteur, cette atmosphère, c'est un climat spirituel intérieur généré par la présence du Saint-Esprit. Mais là où ce manuel de survie devient très spécifique, c'est sur la méthode pour maintenir cette atmosphère.
Oui.
Le texte insiste vraiment sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un effort. Et c'est là qu'on introduit le concept du raccordement.
La distinction sémantique que l'auteur opère entre l'effort et le raccordement, c'est vraiment la clé de voûte de cette endurance.
Comment tu l'analyses ça ?
L'effort est intrinsèquement lié à la chair, à l'énergie physique ou mentale propre à l'individu. Or, tout effort est par nature limité dans le temps.
Forcément, on finit par fatiguer.
Exactement. Si le maintien de cette atmosphère nécessitait une contraction volontaire et constante de l'esprit, l'individu finirait inévitablement par s'effondrer de fatigue. Le concept de raccordement évoque plutôt une mise en réseau. C'est l'idée d'une connexion continue, consciente, mais passive, à une source inépuisable. Ici, la source divine, selon l'auteur. Pour utiliser une analogie plus moderne, c'est la différence entre pédaler frénétiquement pour faire tourner une dynamo et simplement brancher une prise sur le secteur.
Ah, j'adore cette image.
Le raccordement demande une attention, une position, mais pas une dépense d'énergie musculaire.
C'est très clair. Mais cette idée de fluidité, elle contraste violemment avec l'avertissement qui suit juste après dans le document.
Ouais, le danger mortel.
L'auteur pointe du doigt ce qu'il appelle la fuite dans la pensée. Si on revient à notre plongeur dans les abysses, s'il y a une fissure dans l'équipement à plusieurs centaines de mètres de profondeur, l'air ne s'échappe pas tranquillement sous forme de petites bulles mignonnes.
Ah non, pas du tout.
C'est la pression externe qui pénètre instantanément et violemment l'espace interne à cause du déséquilibre.
L'image est d'une sévérité implacable. Dans la mécanique des fluides, l'eau cherchera toujours la voie de moindre résistance pour s'engouffrer et rétablir l'équilibre des pressions.
Ouais, c'est la physique pure.
Tout à fait. Et dans l'architecture psychologique proposée par le texte, cette fuite dans la pensée symbolise une faille conceptuelle, un doute qu'on entretient, une anxiété qu'on laisse s'installer ou une compromission avec une pensée toxique.
Une simple petite brèche, quoi.
L'auteur explique que si l'atmosphère interne baisse à cause de cette fuite, les circonstances extérieures hostiles n'ont même plus besoin de forcer la porte de l'esprit. Elles sont littéralement aspirées à l'intérieur par le vide créé.
Aspirées, c'est le mot juste.
Une simple micro-fissure dans la pensée est donc considérée comme infiniment plus dangereuse que toutes les tempêtes extérieures réunies.
Et cette analyse de la brèche, ça nous amène de manière très organique au concept suivant. C'est une redéfinition hyper audacieuse de la notion de vigilance. Le texte avance une idée très spécifique. Je la cite ici. « La vigilance n'est pas une peur du diable, mais une conscience aiguë de ta propre sainteté. »
C'est puissant.
C'est un point qui mérite vraiment qu'on s'y arrête longuement. Parce que dans l'imaginaire collectif, être vigilant, c'est être sur le qui-vive.
Bien sûr.
C'est le stéréotype du gardien de nuit qui patrouille avec sa lampe torche, guettant la moindre ombre avec une bonne dose de paranoïa. Mais le texte affirme que scruter l'obscurité par peur de l'adversaire, c'est en réalité une erreur stratégique majeure.
Absolument. C'est un glissement cognitif profond. Habituellement, la vigilance est motivée par la perception de la menace.
Ouais, on surveille l'ennemi.
Or, opérer depuis un état de peur, qu'il s'agisse de la figure spirituelle du diable ou simplement de l'anticipation d'un échec social ou professionnel, c'est adopter une position structurellement défensive. D'un point de vue psychologique, focaliser son attention sur l'adversaire ou la menace, ça valide implicitement son pouvoir sur nous. Ça lui octroie la centralité de notre paysage mental.
On lui donne la vedette, en fait.
C'est ça. L'auteur propose de désaxer cette dynamique. La vigilance recommandée n'est pas tournée vers l'extérieur, le danger, mais vers l'intérieur, la valeur de ce qui est protégé.
Donc au lieu de scruter l'ennemi au loin depuis les remparts du château, on contemple la solidité des murs et la noblesse de la cour intérieure.
C'est une excellente métaphore.
Le texte utilise le terme de sainteté, ce qui évoque étymologiquement ce qui est sacré. Mis à part, inaltérable. Mais soyons un peu critiques un instant.
Vas-y.
Refuser de regarder la menace pour se concentrer uniquement sur son identité intérieure, c'est pas une forme d'aveuglement volontaire, ça, Evelyne. Y a pas un risque énorme de se faire surprendre ?
C'est vraiment l'objection classique face à cette approche. Mais il faut revenir à la loi des pressions qu'on a établie plus tôt.
Ouais.
Dans une guerre de mouvement classique, ignorer l'ennemi serait suicidaire. On est d'accord ?
Complètement.
Cependant, le texte a déjà posé comme postulat que la survie dépend exclusivement de la pression interne. Dans ce cadre de référence, observer longuement l'adversité génère de la peur.
Et la peur crée la fuite.
Exactement. La peur est l'émotion qui crée précisément la fameuse fuite dans la pensée. Donc, regarder la menace, c'est créer la fissure par laquelle elle va s'engouffrer.
C'est un cercle vicieux implacable.
À l'inverse, cultiver une conscience aiguë de sa propre sainteté, c'est renforcer la pression de la bouteille d'oxygène. C'est une démarche d'ancrage identitaire.
L'individu ne réagit pas au mouvement de la menace, il s'occupe de maintenir l'hermétisme de son propre espace.
En se concentrant sur sa valeur inestimable, oui, c'est une posture de calme absolu et souverain.
Et ce calme souverain, c'est la transition parfaite pour analyser l'anatomie des attaques telle que la conçoit l'auteur.
Ouais.
Puisque la vigilance consiste à ignorer la provocation pour se concentrer sur l'atmosphère, comment l'adversaire, toujours dans la terminologie du texte bien sûr, procède-t-il ?
C'est là que ça devient fascinant.
Il ne déploie pas de monstre marin géant pour broyer le scaphandre. L'arme décrite dans le manuel porte un nom très évocateur, le bruit sensoriel. Ce bruit est caractérisé par une surcharge d'informations, l'activation d'émotions charnelles, la précipitation. L'objectif tactique de tout ce tapage est très singulier.
Lequel ?
Créer une interférence pour brouiller la perception de la voix divine. En fait, on ne cherche pas à détruire la personne, on cherche à saboter sa communication.
Si l'on relie cela à une perspective plus large, au-delà même du cadre religieux du texte, on trouve une grille de lecture extraordinairement pertinente de la fatigue cognitive moderne.
C'est fou comme ça résonne aujourd'hui.
Le moyen le plus efficace d'invalider un individu aujourd'hui, ce n'est pas la contrainte physique, c'est la saturation.
La saturation, oui.
L'inonder de son excitation, d'indignation préfabriquée, d'urgence artificielle, c'est la définition parfaite du bruit sensoriel.
Tout à fait.
Dans la logique du texte, l'adversaire a compris que la force du plongeur réside dans son raccordement continu. Ne pouvant pas détruire la source divine elle-même, la seule option tactique restante est de brouiller le signal de réception.
C'est le principe classique de la guerre électronique au final, l'interférence radio. On sature les fréquences avec des parasites pour rendre le message vital inaudible.
Exactement ça.
On peut tout à fait s'imaginer la scène au quotidien, une notification agressive sur le téléphone, l'envie soudaine et irrépressible d'aller débattre avec un inconnu sur Internet pour une futilité totale, l'indignation face aux bouchons sur la route.
Tous ces petits trucs qui s'accumulent.
Ce sont des émotions charnelles, impulsives, qui génèrent une poussière mentale. C'est ce bruit sensoriel qui obstrue le raccordement.
Et la sanction de cette perte de focalisation est résumée par l'auteur dans une maxime d'une rigueur absolue.
Ah oui, la citation sur le trône.
Voilà. Celui qui ne protège pas son calme abandonne son trône. L'image est brutale. Le calme n'est plus une vague humeur agréable.
Cette sentence, c'est probablement le point d'ancrage le plus puissant du document. Elle redéfinit catégoriquement l'état de calme.
Totalement.
Le bruit sensoriel cherche à provoquer une réaction. Or, réagir émotionnellement à l'agitation extérieure, c'est descendre de son trône. Le trône n'est pas un fauteuil de relaxation.
Non, c'est le siège de l'autorité.
C'est l'endroit d'où l'on édicte des règles, d'où l'on gouverne son propre domaine. S'énerver, céder à la panique ou à l'indignation face au bruit, c'est choisir de quitter sa position d'autorité pour aller se battre dans la boue avec les éléments extérieurs.
C'est une image très parlante. L'auteur souligne que l'on ne perd pas simplement sa sérénité dans ces moments-là. On abdique.
On cède littéralement le pouvoir de direction sur sa propre vie. L'adversaire n'a pas pris le trône par la force, il a simplement fait assez de bruit pour que l'occupant décide de le quitter de lui-même.
C'est redoutable d'efficacité.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond, Evelyne ? Quelle est la finalité de cette mécanique où se mêlent pression, raccordement et autorité ? La conclusion du texte lie magistralement l'ensemble des métaphores dans un ultime changement de paradigme. La paix intérieure est définie non pas comme une absence de guerre, mais comme la preuve formelle d'une domination.
C'est un concept majeur de l'analyse.
Le manuel conclut ainsi « Ton atmosphère n'est pas un luxe émotional, c'est le territoire légal où Satan n'a plus aucun droit de cité ».
C'est fort.
On quitte soudainement le domaine de la physique sous-marine ou de l'électronique pour entrer de plein pied dans une forme de géopolitique interne avec un vocabulaire strictement juridique.
L'utilisation de ce registre lexical n'a rien d'anodin, en effet. Dans le domaine du développement personnel ou de la philosophie populaire, la paix est très souvent traitée comme un accomplissement esthétique.
Un état zen, quoi.
Voilà un luxe émotionnel que l'on s'octroie lors d'une retraite méditative, par exemple. Le texte détruit cette vision romantique. L'atmosphère, maintenue par le plongeur, est en fait une juridiction.
Une juridiction.
C'est un espace régi par des lois spécifiques.
L'expression « droit de cité », qui trouve ses racines dans le droit romain, est particulièrement forte. Avoir droit de cité dans la Rome antique, c'était exister légalement, avoir le droit de plaider, de voter, d'exercer une influence sur les affaires publiques.
C'était un statut très puissant.
Dire que l'adversaire n'a aucun droit de cité dans cette atmosphère signifie qu'il est frappé d'inexistence juridique au sein de cet espace mental.
C'est un concept extrêmement puissant quand on l'assimile bien. Ça veut dire que la paix n'est pas juste un état où l'on se sent bien. C'est un territoire délimité où le chaos est constitutionnellement illégal.
Constitutionnellement illégal, oui, c'est une excellente façon de le dire.
C'est une ambassade inviolable. Les pensées toxiques, les peurs ou les pressions extérieures ne sont pas seulement repoussées par une force opposée, elles sont déboutées par le droit.
Exactement.
Elles n'ont pas la nationalité de ce territoire, elles n'ont pas le droit de s'y exprimer, ni d'y réclamer la moindre autorité.
Et c'est ce qui clôture et valide la boucle logique du texte. L'établissement d'une frontière géopolitique n'a de valeur que si l'autorité centrale maintient sa souveraineté.
Bien sûr.
Tant que l'individu reste sur son trône, en maintenant le raccordement, sans laisser de fuite dans la pensée, il impose ce territoire légal. L'adversité se cogne alors à un mur d'impossibilité légale.
Mmh.
Il est essentiel de comprendre que la stratégie du bruit sensoriel n'est rien d'autre qu'une ruse pour contourner ce mur juridique infranchible.
Parce qu'il ne peut pas passer en force.
Puisque l'adversaire ne peut pas entrer légalement de force, il doit convaincre l'individu de désactiver lui-même les frontières en quittant le trône du calme. La souveraineté de ce territoire intérieur ne dépend donc in fine que d'une seule variable.
Laquelle ?
La décision irrévocable du souverain de ne pas se lever de son siège, quel que soit le bruit autour.
C'est une architecture de pensée qui se tient vraiment de bout en bout, d'un point de vue conceptuel. Si l'on rassemble les pièces de ce puzzle analytique, l'ampleur de la vision proposée par le texte devient évidente.
C'est très cohérent, oui.
On commence avec la mécanique des fluides, on abandonne l'illusion de pouvoir repousser l'océan avec nos bras pour comprendre que seule compte la pression interne de l'atmosphère.
Ensuite, on découvre que cette pression ne s'entretient pas par la gymnastique épuisante de l'effort.
Mais par la fluidité continue du raccordement. Vient alors la réécriture de la vigilance, où l'on cesse d'honorer la menace par notre peur, pour se focaliser exclusivement sur l'intégrité de notre propre sainteté intérieure.
Face à cette forteresse, l'adversaire n'a plus que le brouillage, le bruit sensoriel.
Pour tenter de saboter la connexion et de nous faire descendre de notre trône. Mais tant que l'on refuse de céder notre calme, cette paix demeure un territoire légal inviolable, une zone d'exclusion totale pour le chaos.
C'est un exercice de conceptualisation d'une très grande rigueur.
La cohérence logique de ces images offre effectivement une grille de lecture robuste. Cependant, l'intégration de ces concepts dans la réalité empirique soulève une question importante, presque vertigineuse pour quiconque prend le temps d'y réfléchir sérieusement.
Vas-y, je t'écoute. Si l'on accepte les prémices du texte, à savoir qu'abandonner son calme équivaut à abdiquer de son trône et que la surcharge d'informations n'est qu'une machination pour créer des brèches légales dans notre esprit,
ouais.
Il devient nécessaire d'examiner nos interactions quotidiennes sous un jour nouveau. Est-ce que chaque fois que l'on permet à une contrariété mineure, un courriel agaçant ou une dispute sur les réseaux sociaux, de créer une fuite dans notre concentration...
On n'est pas simplement en train d'exprimer une humeur.
Exactement. Est-ce qu'on n'est pas bien plutôt en train de céder volontairement les clés d'une juridiction souveraine?
C'est la vraie question.
Est-il possible que notre tolérance au bruit sensoriel soit en réalité la signature quotidienne d'un acte de capitulation dans notre propre territoire mental?
Voilà, une perspective qui donne une sacrée profondeur à nos réactions les plus banales. Considérer chaque mouvement d'humeur impulsif, non pas comme une fatalité psychologique, mais comme la cession d'une parcelle de territoire juridique. Ça remet fondamentalement en perspective notre rapport au stress.
Absolument, c'est un outil d'analyse redoutable.
C'est sur cette réflexion exigeante que se conclut la discussion d'aujourd'hui. Pour les esprits curieux qui souhaitent appliquer ou interroger cette architecture mentale, il convient sans doute de garder un œil attentif sur la gestion des pressions internes.
D'évaluer la qualité du raccordement, oui.
Et de mesurer le coût réel de chaque descente du trône face au bruit du monde.
Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée des rouages du sanctuaire intérieur. L'exploration des concepts architecturaux de l'esprit se poursuivra très bientôt lors d'une prochaine discussion.